Je suis vraiment ravi de vous présenter le docteur Mathias Chamaillard. D'abord, je pense qu'il faut qu'on lui décerne à l'unanimité le prix du plus joli titre de séminaire qu'on a pu avoir jusqu'à présent au Collège de France. Et ça fait un moment que le Collège existe. En deux mots, Mathias travaille, il est directeur de recherche INSERM à un laboratoire d'immunité et de microbiologie de l'Institut de biologie de Lille, l'IBL, que les anciens comme moi continuent à appeler l'Institut Pasteur. C'est un plus joli nom qu'IBL. Donc Mathias, je dirais que c'était un enfant gâté de la science parce qu'il a fait sa thèse dans un laboratoire extrêmement renommé à Paris, qui était le laboratoire de Gilles Thomas. Et pour ceux ou celles d'entre vous qui ont suivi la littérature, il était co-premier auteur avec Jean-Pierre Hugo en 2001 dans Nature de cet article qui, justement, au CEF, a identifié NOD2 comme étant probablement la mutation la plus fréquente chez ou dans les cas familiaux de maladie de Crohn. Donc ça a été vraiment un coup de tonnerre à l'époque où, pour la première fois, au fond, on avait une vraie évidence génétique dans une maladie inflammatoire de l'intestin et pas n'importe laquelle. Alors, donc, Mathias a défendu sa thèse. J'étais d'ailleurs dans le jury, et ça a été un grand plaisir. Et bon, on disait, ouais, c'est bien, il est bien, mais il est dans un grand labo, alors est-ce que quand il sera tout seul, il fera aussi bien? Et nous voilà 13 ans plus tard, et effectivement, il a fait très bien. Il a fait son post-doc ensuite chez Gabriel Núñez à Ann Arbor. J'avais eu le plaisir de l'avoir dans le labo pendant quelques mois auparavant parce que c'était un moment un peu glorieux là, du labo. C'est pas toujours comme ça. Hein. On avait Dana Philpott, on avait Stéphane Girardin. On a commencé à dépiauter toutes ces histoires de nodes et en particulier de fonctions de nodes comme récepteurs intracellulaires. C'était un grand moment. Et donc, il est parti en postdoc chez Gabriel Núñez, qui était le découvreur en fait, des molécules NOD comme éventuellement molécules responsables de l'apoptose cellulaire, où il a publié quelques très, très jolis papiers. Et puis, il voulait revenir en France, donc il est revenu, je ne sais plus quelle année, 2006, pardon. Il est revenu en 2006, il s'est installé à Lille, dans un environnement gastro-entérologique, et puis très rapidement, il a eu son propre laboratoire, donc il est ce qu'on appelle group leader maintenant, encore une fois directeur de recherche INSERM. Et il s'intéresse à l'inflammation intestinale, bien entendu, il n'avait pas laissé tomber un sujet aussi intéressant, mais sous un angle un petit peu nouveau, même très nouveau, quand il a commencé à le faire, qui est celui de l'analyse moléculaire de l'interface entre le microbiote, la dysbiose éventuellement, et le cancer du côlon, pour résumer un petit peu les choses. Et pour ceux d'entre vous qui suivent la littérature, il a eu un très très joli papier l'année dernière dans le Journal of Clinical Investigation qui montrait justement jusqu'à quel point la flore générée par cette mutation NLRP6 pouvait être dysbiotique et donner lieu à la survenue très très rapide chez l'animal d'expérience contaminée par ce type de dysbiose d'une inflammation intestinale et disons de lésions prolifératives intestinales qui sont très proches, sinon similaires à un cancer colique. Donc il a ce sujet qu'il a bâti lui-même et a beaucoup de plaisir en discuter ensemble assez régulièrement, qui est finalement les fonctions des flores du mâle. On ne pouvait pas trouver un meilleur titre. Merci Mathias d'être venu.
Merci Philippe. Bonsoir à tous. En ce mois de janvier, pour certains d'entre vous, j'ai déjà eu l'occasion de leur souhaiter mes meilleurs voeux. Mais c'est très chaleureusement que je vous souhaite à tous une bonne année 2014 en toute sérénité, sans maladie infectieuse. Aujourd'hui, en fait, je vais vous d'abord, en fait, on va digérer un peu plus ce que l'on comprend, nous, de la flore intestinale, et c'est l'objet des travaux que l'on mène à l'Institut Pasteur de Lille sur les interactions avec notre flore intestinale, comment nous dialoguons finalement avec notre flore intestinale, comment nous la maintenons. Et c'est la vue que nous avons finalement au laboratoire de notre flore intestinale. C'est comme un récif corallien qui est très sensible. C'est une vue écologique. Hein. C'est très sensible à différents facteurs environnementaux. Et c'est la symbiose de tous ces micro-organismes, toutes ces cellules, l'une entre elles qui dialogue, qui permet finalement, vous arrivez à voir ce récif corallien, ça veut dire aussi que l'eau derrière est translucide et que finalement il y a une symbiose qui s'est créée. Mais pour revenir sur la flore intestinale, on va revenir déjà sur quelques chiffres. Pour certains d'entre vous, ça va finalement peut-être reconsidérer notre vue de nous, êtres humains, puisque finalement nous nous retrouvons face avec 90% de cellules qui sont des micro-organismes, donc qui sont d'origine non humaine. Finalement, dans un gramme de sel, nous allons avoir autant de cellules que dans un cerveau humain. 800 à 1000 espèces, donc ce n'est pas négligeable en termes de complexité, en termes d'approche vis-à-vis de cette flore intestinale, comment l'aborder. Et grâce au progrès technologique de séquençage, nous avons commencé à, grâce à nos nombreux efforts, nos nombreux consortiums au niveau européen, menés notamment par Joël Doré, Dushko Erlich, de pouvoir apprécier en fait la complexité. Et derrière, voilà, nous arrivons à un nombre considérable de bactéries. Donc ça n'a rien d'aller au niveau des zéros. Et finalement, nous avons beaucoup plus de gènes d'origine non humaine que de gènes d'origine humaine. C'est ce que le professeur Sansonetti appelait le microbiome. Donc nous avons, nous devons, avec tous ces attributs, pouvoir négocier et notre santé avec ces micro-organismes. Et derrière tout cela, forcément, il y a des mécanismes qui ont été établis au cours de l'évolution. Et c'est, nous essayons de comprendre certains de ces mécanismes petit à petit. Finalement, nous avons cette vue d'ensemble d'un super organisme où nous sommes la combinatoire en fait de tous ces micro-organismes avec nos cellules humaines. Et donc nous faisons en fait, nous ne sommes pas que des personnes humaines, mais c'est cet ensemble qui nous constitue. Et nous avons derrière différents microbiotes qu'on va retrouver au niveau de différentes barrières qui nous constituent. Vous allez retrouver au niveau de la bouche, de la peau. Nous allons essentiellement parler aujourd'hui de la flore digestive. Et vous voyez ici, toutes ces couleurs symbolisent la diversité de ces microbiotes qui sont préférentiellement contenus avec des firmicutes ou des bactéroïdes dans le cas du côlon. Vous voyez ici, globalement, c'est bleu et rouge, ça n'a pas de consonance politique, hein, c'est juste firmicutes bactéroïdes. Et ici, d'autres types de compositions à d'autres barrières de notre, qui nous permettent de dialoguer et de négocier avec ces micro-organismes. Un concept avant d'aborder la pathologie, c'est le concept de résilience, et j'ai pris en fait ce schéma, ce dessin très simpliste, mais qui pour le coup, elle n'est pas forcément évidente à comprendre, la concept de résilience, mais qui permet de l'illustrer très, très simplement. Au niveau d'une forêt, forcément, on peut voir le microbiote intestinal comme une forêt après un traitement antibiotique ou une infection comme Clostridium, avoir la disparition de certains micro-organismes qui ne vont plus rentrer en compétition ou qui vont être tués par l'antibiotique, ou la génétique finalement va défavoriser certains micro-organismes. On va se retrouver après ce feu de forêt à finalement un désert végétal qui va petit à petit se rétablir au cours des années, au cours des dizaines d'années. Et finalement, on va retrouver à la fin une autre organisation de cette forêt qui n'est pas forcément la même que celle avant le feu de forêt. Et donc, c'est ce qu'on appelle la résilience. Et on peut présumer que certains patients qui sont susceptibles d'avoir une dysbiose sont également susceptibles d'avoir des défauts à revenir à la normale au niveau de leur flore intestinale et qu'ils pourraient avoir des altérations dans ce processus de résilience. Et ce qui m'amène à cette évolution de notre flore intestinale au cours de notre vie, depuis notre naissance. Clairement, nous sommes influencés par le mode comment nous sommes nés, si nous sommes nés par césarienne ou si nous sommes nés par voie naturelle, par l'alimentation qu'on va avoir. Et ça, ça a clairement été illustré par le travail qu'a mentionné le professeur Sansonetti sur les origines américaines ou malawènes ou européennes. Et on va retrouver finalement que la formulation qu'on peut donner à nos enfants peut impacter sur la diversité. Vous voyez encore des codes couleurs qui symbolisent la diversité de la flore intestinale. Et petit à petit, au cours de notre vie, jusqu'aux âges plus âgés, à la fin de notre vie, finalement, on va retrouver une fenêtre où notre microbiote intestinal est relativement stable, mais est quand même sensible à certaines agressions, dont forcément le traitement antibiotique, la malnutrition, et des facteurs génétiques ou environnementaux peuvent influencer notre flore intestinale pour avoir un profil type de personne saine ou un profil de personne de type obèse. Donc vous voyez, certaines bactéries vont pouvoir émerger de façon plus prédominante chez les patients obèses au détriment d'autres bactéries. Donc ça, c'est vraiment un concept écologique. Et finalement, on retrouve à la fin de notre vie une autre évolution de notre flore intestinale, à une époque où nous sommes sensibles à des agents infectieux, à d'autres types de pathologies liées à la vieillesse. Et donc, tout se pose la question de comment, au mieux, négocier ce dialogue avec notre flore intestinale, comment au mieux manipuler notre flore intestinale. Et la question se pose vraiment pour des pathologies, donc là, on va parler essentiellement du cancer colorectal, où on va retrouver, vous voyez ici, c'est la diversité pour chaque point, c'est un individu, donc un patient atteint de cancer colorectal, un patient qui n'est pas atteint de cancer colorectal, mais pour lequel on a pu définir la diversité de son microbiote intestinal. Finalement, on va retrouver que ces deux groupes d'individus, non seulement l'un a un cancer, l'autre ne l'a pas, mais clairement, ils ont une flore intestinale différente. Et les études concordent pour montrer des différences communes prises de façon globale sur des grandes cohortes, avoir des tendances à avoir certaines bactéries plutôt que d'autres. Un appauvrissement comme certaines bactéries, notamment Fecalibacterium prausnitzii, est un bon indicateur qui appauvrit dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qui peuvent progresser en cancer et également les patients qui ont atteint un cancer d'origine non inflammatoire peuvent avoir également un appauvrissement de ce type de bactéries. Donc au laboratoire, ce que nous cherchons à aborder, c'est finalement ce dialogue et comment le manipuler, comment arriver à trouver la fenêtre d'intervention pour pouvoir manipuler ces changements de la flore intestinale, restaurer ce dialogue avec notre flore intestinale et finalement l'approche probiotique peut être une bonne approche pour réimplanter certaines bactéries qui se trouvent mises à défaut du fait de l'inflammation, du fait du processus cancéreux. Donc nous avons mis au laboratoire en place un nouveau modèle puisqu'il n'y avait finalement pas de modèle où il y a une évolution spontanée de façon complètement pénétrante, c'est-à-dire que tous les animaux allaient développer une inflammation suivie d'une cancérisation de ces inflammations. Donc nous avons pu mettre en place avec l'Institut de génétique, biologie moléculaire et cellulaire à Strasbourg un modèle avec Elisabeth Georges Labouesse. Et ce modèle, finalement, dans 100% des cas, va évoluer vers un adénocarcinome. Donc c'est une seule délétion au niveau d'une intégrine, au niveau des cellules épithéliales. Donc finalement, ça joue clairement sur la mécanique de la cellule épithéliale. Là, on va avoir un détachement progressif de l'épithélium qui va favoriser une inflammation et derrière va progressivement s'installer, vous allez le voir, des altérations de flore intestinale et à la fin progresser vers ces adénocarcinomes. Et c'est le premier modèle notamment qui permet de récapituler des adénocarcinomes infiltrants comme nous pouvons retrouver chez les patients atteints de rectocolite hémorragique qui ont développé un cancer colorectal. De façon très surprenante, donc, pour le coup, dans ce modèle, nous avons un rôle clair des lymphocytes T et des lymphocytes B, où nous allons finalement retrouver une dysplasie de bas grade, contrairement aux souris qui sont déficientes seulement pour cette intégrine, où là, on va plutôt retrouver des adénocarcinomes avec de haut grade. Donc il y a un rôle clé des lymphocytes T et lymphocytes B dans ce modèle. Ce modèle également, ce qu'on a commencé à regarder, c'est finalement donner des clichés de la flore intestinale à différents moments clés de la pathologie. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement de voir les causes et conséquences et comment on peut définir cette fenêtre d'intervention. Ce que nous nous rendons compte, c'est qu'avant la pathologie, avant le sevrage des animaux, donc avant la séparation avec leur mère, il n'y a pas d'altération de la flore intestinale. Progressivement, après, se développent des lésions inflammatoires qui précèdent ces altérations au niveau de la flore intestinale que je vous présente ici. Donc, chaque point représente un individu. C'est une analyse qu'on dit en composante principale. Ça permet de distinguer deux groupes d'individus en fonction d'un paramètre. Ici, c'est la diversité de la flore intestinale. Vous voyez que l'ellipse ici n'est pas chevauchante avec l'autre ellipse des souris qui sont déficientes, montrant bien, de façon statistique, qu'il y a deux flore intestinale pour ces deux animaux. Ces animaux avec la délétion ont déjà développé des lésions inflammatoires, donc qui précèdent ce déclenchement de cette dysbiose. Et progressivement, ce que nous avons pu montrer, c'est que finalement les bactéries sont impliquées dans la progression de la maladie. Si on traite ces animaux avec des antibiotiques, vous voyez ici l'infiltrat inflammatoire qui est observé chez les mutants, restaurer comme la souris contrôle après ce traitement antibiotique. Également, la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires. Hein, on a parlé de l'inflammasome aujourd'hui et vous aviez eu également d'autres notions par le passé. Donc, c'est une cytokine essentielle pour l'homéostasie intestinale. Se retrouve augmentée chez les souris qui ont développé une colite. Donc, ça corrèle avec la pathologie. Avant le déclenchement de la colite, il n'y a pas de différence. Et le traitement antibiotique est suffisant pour restaurer cette réponse inflammatoire à la normale. Et il y a directement un impact sur la dysbiose. Ça nous amène finalement à revoir le concept de la physiopathologie du cancer colorectal où finalement, vous avez entendu parler des gènes suppresseurs de tumeurs. L'idée, c'était que finalement, c'était la succession de mutations de nos gènes suppresseurs de tumeurs qui allaient progressivement nous rendre vulnérables au développement du cancer colorectal. Là, nous avons la notion que la flore intestinale peut y jouer un rôle et potentiellement, il y aurait des micro-organismes qui pourraient participer à la genèse de ces mutations au niveau de nos gènes suppresseurs de tumeurs. C'est le cas, par exemple, de Bacteroides fragilis entérotoxinogène. Cette bactérie ETBF est capable donc d'accélérer le développement de tumeurs. Vous voyez ici, en sombre, ce sont les adénocarcinomes qui ont pu être vus au niveau macroscopique par rapport à une souris qui n'est pas infectée par ce Bacteroides entérotoxinogène. Voyez ici le nombre de tumeurs, une quantification des souris, dans ce modèle de souris où les souris infectées avec cette bactérie fragilis entérotoxinogène par rapport à la bactérie qui est mutante pour la toxine, dont elle sécrète pas de toxine, le nombre de tumeurs est similaire à la souris non infectée. Ici, le nombre de tumeurs est significativement augmenté. Donc clairement, il y a cette hypothèse que certaines bactéries pourraient favoriser le développement tumoral et effectivement, certaines bactéries, par les toxines notamment, peuvent induire des cassures ou une réponse, des cassures au niveau de l'ADN ou des réponses inflammatoires exacerbées. C'est le cas pour cette bactérie entérotoxinogène où on va retrouver une sécrétion en fait ici d'IL-17. Donc vous avez ces notions aussi avec Nadine Serben-Soussan, cette réponse Th17, si on retrouve des lymphocytes CD4 exprimant l'IL-17, et cette réponse inflammatoire, dans ce cas, est pathologique avec une signalisation. Ici, vous avez la réponse de l'intestin à l'infection où vous avez une phosphorylation, une voie de cascade de phosphorylation des stades qui sont en aval de l'IL-17, clairement montrant qu'il y a une réponse inflammatoire exacerbée chez ces animaux infectés. Il en va aussi également de mutations, de cassures de l'ADN double brun. Et vous voyez ici, ce marquage brun montre clairement des cassures au niveau de l'ADN. Donc, ce sont ces infections avec Enterococcus faecalis contribuent finalement à la transformation de nos cellules épithéliales à petit à petit de la néoplasie et qui va pouvoir se promouvoir la progression tumorale. Donc, ce sont des résultats relativement récents hein, qui montrent cette sensibilité de nos cellules épithéliales à ces bactéries. Et c'est aussi également donc de travail d'une équipe française à Toulouse où, qui montre avec un Escherichia coli qui exprime la colibactine. Donc, ce travail d'Eric Oswald qui permet de montrer que l'infection à Escherichia colibactine exprime la colibactine est capable également d'induire ces cassures au niveau de nos cellules épithéliales à l'origine même de mutations. Vous voyez ici un contrôle positif d'une irradiation de nos cellules épithéliales, elles deviennent toutes présentent toutes des cassures à double brin. La bactérie qui n'exprime pas la colibactine ne présente aucune altération des cellules épithéliales par rapport à dans ce modèle de souris infectée avec cette Escherichia coli. Donc ça amène plusieurs pathogènes, plusieurs coupables au sein de notre flore intestinale qui pourraient ainsi promouvoir la tumorigénèse. Plus récemment, sur cette bactérie Escherichia coli qui exprime la colibactine, a pu montrer qu'il y a un îlot de pathogénicité et que la mutation au niveau de cet îlot de pathogénicité est capable de diminuer le nombre de tumeurs invasives ici, ou le nombre de tumeurs de façon générale dans ce modèle, soulignant clairement un rôle virulent de ces bactéries de ce type d'Escherichia coli qui sont capables, si on leur permet au niveau écologique de s'implanter, de promouvoir la tumorigénèse, la multiplicité et l'invasion des tumeurs. Au niveau chez l'homme, donc si on passe maintenant à faire un parallèle entre ce qui peut être fait chez la souris au laboratoire, de ce qu'on peut retrouver en clinique chez l'homme, donc ce n'est pas facile non plus à dire, c'est la Fusobacterium nucleatum, et également se retrouve enrichi au niveau des selles de patients atteints de carcinome. Vous voyez ici un nombre nettement plus important, de façon significative plus important. Et ils ont essayé dans cette étude d'aborder le postulat de corps, c'est-à-dire d'induire en fait la pathologie suite à l'infection par ce micro-organisme. Et dans ce modèle, ils arrivent effectivement à augmenter le nombre de tumeurs des souris infectées par Fusobacterium nucleatum par rapport à des souris infectées par un autre micro-organisme, ici contrôle. Donc on arrive finalement, après isolement de ces micro-organismes, à définir un nouveau modèle de la pathologie qui peut être induit par ce micro-organisme. Donc finalement, ça amène certains auteurs à avoir cette vision de la progression tumorale qui s'ajoute à la notion des mutations sur les gènes suppresseurs de tumeurs, mais apporte une nouvelle composante qui est l'impact de notre flore intestinale sur l'induction de ces mutations. Et comment notre réaction de nos cellules épithéliales vont pouvoir favoriser ou non l'implantation de telle ou telle bactérie. Donc finalement, nous avons différents clichés de la flore intestinale à différents moments. Elle est évolutive, la maladie progresse, notre flore intestinale progresse, notre dysbiose progresse au cours du temps. Et ça peut expliquer finalement, on le voit avec des grosses cohortes et avec une étude longitudinale, pourquoi certaines études peuvent apparaître discordantes, mais finalement, vu dans l'ensemble, peuvent concorder avec ce type de schéma où il y a une évolution de la dysbiose et une évolution de nos cellules épithéliales, l'induction de mutations et petit à petit l'adénocarcinome. Donc là, on arrive sur la notion de fenêtre de temps où on peut intervenir encore pour réduire l'implantation de certains micro-organismes, restaurer finalement une prolifération normale de notre épithélium. C'est le cas finalement de la bactérie d'S. fragilis en entérotoxinogène. Finalement, ça peut être considéré comme un colonisateur primaire qui, par l'expression de toxines, induit une réponse inflammatoire, type IL-17, qui va induire une réponse antimicrobienne de notre épithélium. Notre épithélium réagit à l'IL-17, synthétise des peptides antimicrobiens qui, derrière, influencent la diversité de notre flore intestinale. Donc derrière, peut promouvoir la colonisation par ces primo-colonisants, ou permettent également l'induction, la présence de colonisants secondaires, opportunistes, tertiaires, qui vont participer à l'évolution de la maladie. Donc c'est ce qu'ils appellent ici, comme les anglo-saxons, de ce bacterial driver passenger model, où finalement c'est une vue écologique, on va au-delà de juste une maladie, un pathogène, on a une évolution de la maladie et une évolution de la dysbiose au cours de la maladie. Ce qui nous amène au laboratoire à nous poser vraiment la question, est-ce que cette dysbiose peut-être peut promouvoir la maladie? Comment elle est corrélée? Est-ce qu'il y a finalement un lien de causalité? Et en quoi, au-delà de la génétique, au-delà de l'environnement, des polluants, en quoi notre flore intestinale pourrait promouvoir le risque inflammatoire, le risque de la maladie? Donc nous nous sommes posé cette question dans ce dialogue avec la flore intestinale, cette symbiose, et comment la perturbation de cette symbiose par la génétique ou par d'autres facteurs peuvent induire une dysbiose, et comment cette dysbiose, derrière, contribue au risque. Est-ce que, il faut bien voir, même c'est frustrant pour un généticien, c'est de se rendre compte que seuls 20% de l'héritabilité des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin est expliquée par les gènes. Donc il reste 80% de l'héritabilité qui est expliquée par des causes non génétiques, et donc potentiellement une dysbiose pourrait être un facteur de risque. Donc nous avons pour le coup lu avec attention les travaux qui avaient été faits par les équipes allemandes, Philippe Rosenstiel, également par l'équipe de Jean-Pierre Hugo, par l'équipe américaine de Koichi Kobayashi, montrant que des souris qui sont déficientes pour le gène majeur de prédisposition à la maladie de Crohn, le gène NOD2, ces souris présentent une altération de leur flore intestinale. Vous voyez ici les nouveau-nés, les adultes présentent une flore intestinale qui est relativement similaire, mais alors que les souris contrôles, qui ont un NOD2 fonctionnel, présentent une flore du sourisseau et une flore de la souris adulte. Et pour le coup, le bleu et le rouge ne se superposent pas, il y a vraiment deux flores différentes entre ces deux animaux. En quoi ces altérations de cette flore pourraient contribuer au risque inflammatoire? On sait que finalement, des mutations perte de fonction de ce gène sont associées avec la prédisposition à la maladie de Crohn, mais en quoi, on sait ce qu'on récapitule ici avec ces souris qui sont déficientes pour NOD2, les patients ont également des altérations de leur flore intestinale, mais en quoi ces altérations pourraient contribuer au déclenchement de la maladie ou à la progression de la maladie. Donc ça a été le travail au sein du laboratoire d'Aurélie Couturier, qui finalement a pris au bras-le-corps ce projet, et pour déjà commencer à répondre si les altérations de la flore pouvaient jouer un rôle, elle a pris l'avantage qu'au sein de l'Institut Pasteur de Lille, nous pouvions travailler avec des souris sans flore, donc des souris qu'on appelle axéniques, et qu'elle a pu recoloniser à façon avec une flore de souris contrôle ou une flore de souris déficiente pour NOD2. Ça nous amène ici avec les deux groupes de souris, les souris donc en noir ou le groupe en noir ou le groupe en gris. Si on regarde la perte du poids au cours du temps dans un modèle d'inflammation intestinale induit par ce produit chimique, chez les souris contrôle, nous allons avoir une perte du poids au cours du temps. C'est corrélé avec le déclenchement de la maladie, la sévérité de la maladie. Ce qu'on nous en rendons compte, c'est que finalement, c'est le groupe qui a reçu la flore fécale d'une souris déficiente pour NOD2 qui présente un risque accru, une perte de poids accrue. Et voyez ici l'infiltrat, la rupture, l'érosion au niveau de l'épithélium chez ces souris qui ont reçu une flore de NOD2. De souris déficientes pour NOD2, alors que les souris contrôles ont, elles, un infiltrat inflammatoire qui est relativement résorbé. Vous voyez ici à jour 10 après l'induction de la colite. Vous voyez ici le score histologique. Donc finalement, ça nous amène que, pourtant, ces deux souris avaient le même fond génétique, donc elles étaient semblables au départ. Elles ont reçu, par contre, deux flores différentes. On peut avoir la notion que une personne qui est censée être saine ou résistante à l'inflammation intestinale peut devenir à risque de cette inflammation si elle est en contact avec cette flore d'une souris qui est génétiquement prédisposée à développer la maladie de Crohn. C'est une souris déficiente pour nos deux. Alors cette notion amène à est-ce que c'est réversible? Est-ce que Donc on peut induire un sujet qui est sain, donc non génétiquement prédisposé à déclencher la maladie, mais est-ce qu'un sujet qui peut déclencher la maladie peut devenir sain, c'est-à-dire protégé de cette inflammation intestinale? Et pour le coup, elle a fait l'expérience inverse, qui est finalement de prendre, de générer des souris déficientes pour notre 2 sans flore, donc ce qu'on appelle germ-free, axénique. Donc on a pu les maintenir sans flore au sein des supasteurs de Lille, et derrière, recoloniser ces souris avec. On retombe sur la même symbolique de couleur avec la flore fécale de souris déficiente pour notre 2 ou la flore fécale de souris contrôle en noir. Et toutes les souris en fait, qui ont reçu la flore fécale de souris notre déficiente présentent un risque accru, ce qui veut dire que les autres qui ont reçu une flore fécale de souris contrôle sont relativement protégés de l'inflammation intestinale. La sévérité que l'on a observée était significativement diminuée par rapport à celles qui ont reçu une flore fécale de souris notre 2 déficiente. Vous voyez ici la significativité, ce qui suggère que là, on est parti de deux groupes d'animaux qui étaient identiques au départ, mais qui ont reçu, ils se sont distingués par la flore qu'ils ont reçue, et donc on peut avoir cette notion, en tout cas sur la fenêtre expérimentale qu'on a travaillée sur ces dizaines de jours, qu'un autre qui est à risque de développer une inflammation peut être protégé, avoir un risque inflammatoire diminué après cette transplantation fécale. Donc ça, cela fait écho à des altérations au niveau de notre flore intestinale et qu'on peut distinguer un hôte qui est à risque de développer une inflammation éventuellement avec des changements au sein de cette flore intestinale. Ce qu'on récapitule ici, c'est avec des analyses en composantes principales, les animaux à risque, ici en gris, présentent une flore intestinale distincte de ceux qui sont résistants. Et au niveau de ces différences, nous allons retrouver des appauvrissements et des enrichissements. C'est vraiment un concept écologique où il y a un appauvrissement de l'acnobactérium, butyrivibrio, au sein de la flore intestinale des souris qui étaient à risque par rapport aux souris contrôle. Vous voyez, c'est les bleus et les oranges qui disparaissent. Et ceci a l'avantage des bactéroïdes chez les souris à risque. Donc la question à l'heure actuelle au sein du laboratoire, c'est de savoir est-ce qu'il y a besoin de ces deux changements ou un seul des deux changements pour expliquer le risque. Mais ce risque, ces changements au niveau de la flore intestinale, là où on a été le plus surpris au laboratoire, c'est que finalement de se rendre compte que les animaux notes de déficient qui sont co-hébergés avec des souris contrôle, ces souris contrôle par coprophagie, par expérience de co-hébergement, vont progressivement acquérir une flore différente des souris qui sont hébergées, qui n'ont jamais rencontré de souris notes de déficiente. Ces souris contrôle vont présenter plus de tumeurs dans un modèle expérimental de colite, de carcinogénèse colique associée à une colite, plus de tumeurs de façon significative par rapport aux animaux contrôle. Donc là, on parle bien d'un hôte qui est sain génétiquement, qui ne présente pas de prédisposition à développer des tumeurs, mais qui peut, pour le coup, avoir un risque de développer des tumeurs par ce co-hébergement, suite à cette coprophagie, avec des souris à risque. Ici, les souris notes de déficiente ou les souris RIP2 déficiente, juste entre parenthèses, RIP2, c'est une kinase qui est essentielle à l'activation de la voie de signalisation NOD2, d'allergie en aval de ce récepteur aux bactéries. Vous voyez ici, par endoscopie, que ces souris contrôle, qu'on a WT pour white tap en anglais, présentent effectivement des adénomes qu'on peut le voir par endoscopie adaptée pour le petit animal par rapport aux souris qui ne sont pas en contact avec ces souris à risque, les souris NOD2. Et cette tumorigénèse, on s'est alors posé la question, et bon, ça suggère qu'il y a des altérations de la flore intestinale qui participent à la progression tumorale, mais quelle est la réponse de l'hôte à cette flore intestinale dysbiotique et cette réponse de l'hôte pourrait, elle, effectivement, participer à la progression tumorale. Donc on avait vu l'IA17 par rapport au Bacteroides fragilis. Nous avons exploré différentes cytokines pro-inflammatoires par une approche pharmacologique en utilisant des anticorps bloquants pour différentes cytokines inflammatoires. Nous avons testé l'IL-1-bêta, nous avons testé le TNF-alpha, différentes thérapies comme l'étanercept qui est actuellement utilisé pour les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et aussi, grâce en fait, à une collaboration avec une entreprise pharmaceutique, un anticorps bloquant le récepteur à l'IL-6. Et ce que nous avons pu voir, c'est que tous les animaux qui sont traités par ce récepteur, cet anticorps bloquant pour le récepteur à l'IL-6, présentent un nombre de tumeurs significativement diminué par rapport aux souris non traitées. Vous voyez ici, par endoscopie, le résultat de cette administration de ce traitement. Et même au niveau moléculaire, alors qu'il y a une claire réponse inflammatoire chez les souris à risque, une diminution de peptides antimicrobiens chez ces souris en gris, le traitement avec l'anti-IL-6 est capable de restaurer, d'annuler ces différences et finalement de retrouver un état normal d'expression de ces différents gènes inflammatoires ou de peptides antimicrobiens. Donc ça nous a permis d'identifier un mécanisme par lequel, en réponse à cette flore dysbiotique, il pouvait y avoir une prédisposition à la progression tumorale. Et ce qui nous a encore le plus surpris, c'est que ce traitement peut impacter sur la diversité de notre flore intestinale. Ici, vous est représenté, donc chaque boule représente en fait une souris, donc un individu. Le code couleur, c'est en fonction du génotype. Les noirs, ce sont les souris contrôle. Les grises, ce sont les souris à risque, note de déficiente. Et les souris en verte, ce sont celles qui sont traitées. Et si on essaye de définir une variable qui explique cette différence entre les flores, clairement le génotype est une variable, la longueur du trait montre l'importance de la variable dans cette analyse. Le génotype est clairement un facteur qui permet d'expliquer la différence au niveau de la flore intestinale, mais également le traitement. Les souris traitées au récepteur anti-IL-6 présentent une flore intestinale différente, suggérant que cette molécule, l'IL-6, pourrait également participer dans le concept de résilience et essayer de retomber à un état, je vais dire, pas forcément normal, mais globalement à l'équilibre en symbiose avec les cellules épithéliales. Donc le premier message, c'est que finalement, la dysbiose apparaît comme un paramètre intégrant clairement les interactions entre les gènes environnement, nous avons vu avec le cas pour NOD2, et que finalement pourrait représenter un paramètre biomarqueur cliniquement relevant, pertinent pour les maladies inflammatoires chronico-intestinales et également pour le cancer colorectal. Corriger finalement cette dysbiose, c'est tout le challenge maintenant, ça amène un nouveau concept, principe thérapeutique, notamment une approche peut-être de restaurer les bactéries qui se retrouvent appauvries chez ces patients par une approche de type probiotique. Mais pour le coup, nous développons désormais avec le docteur Bruno Pott et le docteur Corinne Grangette à la Superstore de Lille un programme de découverte de nouveaux probiotiques. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les patients atteints de maladie de Crohn ont des altérations génétiques. Donc la moitié d'entre eux présentent des mutations du gène NOD2 et les lactobacilles que l'on peut retrouver comme probiotiques sont connus pour activer, pour avoir un effet anti-inflammatoire dépendant de NOD2. Ils sont reconnus par ce récepteur aux bactéries et la reconnaissance par NOD2 de ces bactéries, de ces lactobacilles, explique leur effet anti-inflammatoire, alors que les patients présentent des mutations pour ce gène. Donc, et ce qu'on se rend compte de façon rétrospective, c'est l'utilisation des lactobacilles, c'est juste un échec dans la maladie de Crohn. Ça marche dans la pouchite, mais ça ne marche pas dans la maladie de Crohn. Et donc, pour le coup, nous cherchons des probiotiques qui auraient un effet indépendant de ce gène de prédisposition. Et après, on essaie de généraliser aux autres gènes. On arrive maintenant à près de 100 gènes dans la maladie de Crohn, mais on essaie de généraliser pour au mieux affiner notre sélection des probiotiques. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport à un généticien, forcément, ça peut être frustrant d'avoir une héritabilité qui n'est pas expliquée par la génétique, un gène, une maladie, donc ça, ce n'est pas le cas. On pouvait s'y attendre, c'est une maladie complexe, mais ça reste relativement frustrant. Mais là, on a de l'espoir avec ces interactions avec la flore intestinale et la dysbiose comme facteur de risque. Je vais désormais profiter de l'introduction sur NOD2 pour amener un autre chef... un chien de garde, finalement, de notre système immunitaire inné, NLRP6. NLRP6 fait partie de la même famille de molécules que NOD2. Vous voyez ici NLRP6, vous voyez ici NOD2, c'est un arbre phylogénétique, donc finalement, c'est un cousin. Cette molécule, nous y avons porté un intérêt tout particulier du fait qu'il a une expression prédominante au niveau de la barrière digestive. Vous avez ici son niveau d'expression au niveau de l'iléon du côlon. ici un marquage, en brun vous voyez le marquage pour NLRP6, donc vous voyez les cellules épithéliales ici, la villosité est donc très proche des cellules épithéliales, un marquage spécifique de NLRP6. Et ce travail a été mené par Sylvain Normand au sein du laboratoire, vous voyez ici à l'animalerie. Et ce que nous savions au début de cette étude, ce sont les travaux de John Bertin de début des années, début 2000, 2001, oui, où il a voulu montrer qu'NLRP6, qu'il appelait à l'époque PIPAF5, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, NLRP6 était capable d'activer NF-kappa-B et la caspase 1, deux acteurs clés de notre interaction entre l'épithélium et notre flore intestinale. Les souris qui sont déficientes pour NF-kappa-B au niveau de les cellules épithéliales sont susceptibles à l'inflammation intestinale, travail de Manolis Pasparakis, et les souris déficientes également pour la caspase 1 sont également sensibles à l'inflammation intestinale. Donc c'est vraiment deux acteurs clés, cette molécule avait en tout cas plusieurs arguments pour penser qu'elle pouvait jouer un rôle au niveau de ce dialogue avec la flore intestinale. Plus précisément, elle s'exprime sur différents types cellulaires, mais de façon prédominante au niveau des myofibroblastes. Ces cellules sont clairement importantes dans la sécrétion de nombreuses cytokines pro-inflammatoires. On a déjà parlé d'IL-6, donc ça c'est un acteur clé, mais également elles sont capables de sécréter l'IL-1, l'IL-8, et ainsi participer à la prolifération et la différenciation de notre épithélium, finalement à la régénération de notre épithélium, à la progression vers, on pourrait penser que ça pourrait agir aussi à la progression vers la carcinogénèse, vers la dysplasie. Donc la première question qu'il a posée, c'était est-ce que NLRP6 pouvait être impliqué dans la réparation de notre épithélium ? Un des paramètres cliniques clés pour les gastro-entérologues, c'est de savoir si l'épithélium de leur patient, au cours de la rémission, a complètement résorbé ses lésions. Et c'est à partir de là, est-ce qu'on est en succès thérapeutique ou pas ? Donc la première question qu'il a posée, c'est est-ce que NLRP6 pouvait jouer un rôle sur cette réparation de l'épithélium ? Et pour ce coup, on a profité de cette endoscopie de pouvoir réaliser des biopsies au niveau de la muqueuse intestinale de souris contrôle ou de souris déficiente pour NLRP6 et de suivre au cours du temps la résorption de cette biopsie. Donc celle-là, c'est une biopsie de 0,9 mm, c'est relativement petit, ça se résorbe de façon spontanée. Donc au niveau, pour le coup, nous avions rassuré le comité d'éthique et ce que nous sommes rendus compte, c'est que les souris NLRP6 déficientes ont un retard à la cicatrisation suite à cette biopsie. Vous voyez ici le pourcentage de résorption de ce dommage au niveau de la muqueuse par la biopsie, simple, donc sans perforation de la muqueuse intestinale, c'est juste une biopsie qui est prise, il y a un retard de cicatrisation, suggérant clairement que NLRP6 participe, donc notre hypothèse c'est que par la sécrétion de cytokines comme l'IL-6 pouvait jouer un rôle au niveau de la prolifération de l'épithélium et de la régénération de cet épithélium, la réponse dans ce modèle était oui. Il a étendu en fait ce modèle en caractérisant plus précisément les observations au niveau des cellules épithéliales. Et vous voyez ce marquage brun qui est signe en fait d'une activité proliférative des cellules épithéliales et relativement plus abondant en absence des NLRP6 par rapport aux souris contrôle. Donc, ce type d'observation est réminiscent de ce que l'on peut observer au niveau de patients atteints de cancer colorectal avec une prolifération accrue des cellules épithéliales avec finalement un allongement et petit à petit une néoplasie qui va progresser petit à petit vers le haut grade. Donc la question qu'il a posée, c'est au regard de ces observations, de cette hyperprolifération de l'épithélium en absence d'NLRP6, si cette hyperprolifération pouvait à terme aboutir à une tumorigénèse. Et donc là, c'est très pratique cette endoscopie. Donc il a pu en fait démontrer qu'il y avait un risque accru de développement d'adénome chez les souris déficientes pour NLRP6. Ici, à l'autopsie, vous voyez le côlon qui a été ouvert de façon longitudinale pour bien voir à l'intérieur s'il y a présence de tumeur ou pas. Il y a clairement présence de néoplasie chez les souris déficientes pour NLRP6. Cette observation, en fait, a pu être reproduite également par d'autres équipes, notamment ERN et l'INAV, laboratoire de Richard Flavel. Et ce qu'il a pu montrer, à l'image de ce que nous avions pu montrer avec les souris nodo-déficientes, c'est que ce risque de développement de tumeur est transmissible. C'est-à-dire que ce co-hébergement, cette coprophagie entre des souris contrôles avec des souris NAP6 déficientes augmente le risque des souris contrôles à développer des tumeurs par rapport aux souris contrôles qui n'ont jamais rencontré de souris NAP6 déficientes. Donc nous nous retrouvons dans ce schéma, comme pour note 2, d'une influence de la flore intestinale dans ce modèle de cancer, de carcinogénèse colique associée à une colite, et que finalement un hôte qui est censé être résistant à la cancérisation peut devenir à risque après cette expérience de cohébergement, suggérant des bactéries, donc l'implication de bactéries. Il a également pu montrer le rôle d'antibiotiques qui diminue de façon significative le nombre de tumeurs chez les souris qui sont cohébergées avec les souris ERP6 ou ASC. Donc ASC, c'est cet adaptateur au niveau de l'inflammasome clé dans l'activation du recrutement de la caspase 1. Et de façon également intéressante et qui fait écho avec ce que nous avions pu montrer avec notre 2, c'est que le traitement au l'anticorps ciblant le récepteur LIL6, il est capable de diminuer de façon significative le nombre de cellules prolifératives, également le nombre de tumeurs, ici par une délétion génétique du récepteur LIL6 dans les cellules épithéliales. Donc on a bien ce schéma qu'il y a une dysbiose. Cette réponse à la dysbiose induit, entre autres, comme médiateur pro-inflammatoire l'IL6, et la réponse à l'épithélium à l'IL6 est aggravée chez les souris ASC déficientes ou les souris NAP6 déficientes, qui explique, qui corrèle en tout cas, qui s'associe avec l'augmentation du nombre de tumeurs. Donc le traitement pharmacologique ou ici génétique de ciblage sur cette cytokine inflammatoire, sur la réponse de l'épithélium à cette cytokine inflammatoire est clé dans ce processus. Donc nous arrivons sur ce dialogue. Donc qui est peut-être appliqué à d'autres molécules de la famille NODLAC récepteur. On a vu NOD2, NRP6. Il y a un impact. Quel est l'impact? La question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'il y a un impact de la flore intestinale sur NRP6, et notamment de la dysbiose sur NRP6. Et derrière, ce qu'on a pu nous rendre compte, c'est que NRP6 pourrait jouer aussi un rôle sur la flore intestinale et en agissant en fait sur la sécrétion d'IL6, et que la réponse de l'épithélium à l'IL6 aboutirait à une prolifération, à un renouvellement de l'épithélium ou, dans des cas pathologiques, à la cancérisation. Donc nous sommes en cours de recrutement finalement dans des études de cancer colorectal de patients pour isoler des selles, pour caractériser finalement la dysbiose, avoir une image de la dysbiose qui prédispose au cancer colorectal, également de recherche de mutations pour NRP6 chez certains de ces patients. Donc là, on monte un protocole franco-chinois avec l'Institut Gustave Roussy. Et ce qu'avait pu montrer le docteur Elinav chez le professeur Flavel, c'est que les souris NAP6 déficientes présentent effectivement, vous voyez ici, elles sont représentées en rouge, présentent une flore intestinale différente des souris contrôle, en bleu, et que les souris contrôle qui étaient en contact avec les souris NAP6, ici en jaune, présentent également une flore différente. Et donc on arrive à distinguer les souris à risque des souris non à risque. Et dans cette différence au niveau de la diversité de la flore intestinale, ce que l'on peut voir, c'est une prépondérance de Prevotella et de TM7. Et la question notamment qui pose, c'est de savoir le rôle de ces bactéries dans la cancérisation, dans le phénotype qu'il a pu observer. Cette notion commence à faire écho dans la littérature, dans la communauté scientifique, puisqu'ils ont pu dans d'autres modèles, un autre modèle prédisposé à développer des tumeurs. Donc un gène suppresseur de tumeurs, le gène APC, muté, se traduit chez la souris par développement de tumeurs, comme ce qui peut être retrouvé chez l'homme, et que la flore intestinale de ces souris qui sont à risque de développer des tumeurs, si on la transplante dans une souris qui est résistante, va, elle, également, pour le coup, développer des tumeurs. Donc là, on est sur un hôte qui n'a pas de mutation d'APC, mais qui a reçu une flore intestinale de souris qui est déficiente pour APC, ce gène suppresseur de tumeur, et pour le coup, se retrouve à être plus à risque de développer une cancérisation, soulignant bien le rôle déterminant de ce dialogue et que ce n'est pas juste une succession de mutations au niveau du génome humain qui explique la maladie, mais aussi l'induction ou la réponse que l'on peut avoir avec notre flore intestinale. Alors, on arrive sur cette notion beaucoup plus, une vision beaucoup plus générale des choses, qui va se complexifier, mais si on le prend petit à petit, on va retrouver depuis la naissance, ici, au centre de ce cercle, une diversité qui va s'accroître au cours du temps, qui va évoluer au cours du temps, et cette diversité, représentée ici au niveau de la flore fécale par ce ratio entre les bactéroïdétes et les firmicutes, c'est les deux phyla les plus prédominants au niveau de la flore fécale, va évoluer au cours du temps. Donc, vous voyez, à notre temps de jeunesse, nous avions beaucoup de bactéroïdétes. Dans nos tendres dernières années, on aura beaucoup plus de firmicutes. Toute la notion à ce niveau-là, c'est le risque des pathologies au cours du temps qui va varier comme un curseur et comment on peut agir contre le développement de ces pathologies. C'est déjà de mieux comprendre les mécanismes et derrière tout ce qui peut affecter cette évolution naturelle des choses, comme les antibiotiques, le régime alimentaire, on peut voir certains médicaments, comme le récepteur anti-S6 peut influencer notre flore intestinale, la pathologie, la génétique va également influencer. Donc le tout, c'est de trouver cette fenêtre d'intervention et pour le coup appliquer à d'autres pathologies, parce qu'on va bien se rendre compte qu'il n'y a pas que le cancer colorectal qui est influencé par la flore intestinale, la NASH, la stéatose alcoolique non hépatique non alcoolique également est impliquée. On se rend compte même également que l'asthme allergique est influencé par notre flore intestinale, différentes pathologies. Donc pour le coup, sur ce curseur au cours du temps, tout l'enjeu est maintenant de définir le traitement adapté au stade d'évolution de notre microbiote. Et c'est une vue finalement écologique. Donc je reprends le feu de forêt, où il y a une dévastation de ce feu de forêt, une renaissance après ce feu de forêt, pour donner un peu d'optimisme sur les flores du mal. Finalement, il y a différentes approches. Hein. On peut prendre le probiotique, prébiotique, postbiotique, bactériothérapie. La transplantation fécale est clairement efficace dans certaines pathologies infectieuses. Professeur Santonetti qui l'a mentionné pour Clostridium difficile. Et derrière, on peut clairement se poser la question par rapport à d'autres pathologies qui sont responsables d'inflammation, comme l'obésité, et on se rend bien compte que notre hôte va influencer par la sécrétion de différents métabolites, notre flore intestinale, qui derrière peut induire des dommages, donc éventuellement une cancérisation, des hépatocarcinomes, au niveau du foie, en réponse à cette flore dysbiotique. Donc ça, petit à petit, on a une autre vision de nous-mêmes, mais pour le coup, il n'y a pas que les bactéries. D'autres équipes travaillent sur les bactériophages, le virobiote, donc les virus, norovirus en est un, et le mycobiote, les fongiques, les champignons, qui finalement pourraient également participer à la pathogénèse nombreuses maladies inflammatoires. Je pense à Candida albicans avec la maladie de Crohn. Et voilà, c'est l'occasion de remercier tous les membres de l'équipe. Toute recherche est coûteuse, donc il y a de nombreux financements pour réaliser ces travaux. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci.